Moi, je prononce avec un V. Je prononce à la flamande, puisque c'est un nom flamand. Alors, les flamands disent Verbeek, mais bon, en français, on dit Verbeek, tout simplement, puisque beaucoup de copains m'appelaient en verlan bec vert. Ça correspond à peu près à ça. C'est le verlan de bec vert. Allez, allons-y.
Alors, Patrick Verbeek, bec vert. Pour vous, le blues, la musique, disons, avant que ce soit le blues, est-ce que c'était déjà un rêve d'enfant, tout gosse? Vous étiez déjà un petit peu musicien, comme ça, dans l'âme?
Oh, je crois, oui, c'est vrai que même quand j'étais vraiment petit, enfin, je sais pas, quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je me souviens que mon père écoutait des émissions de jazz à la radio. Alors, à l'époque, il y avait le gros poste de radio, le meuble dans le salon. Et quand il y avait du gospel, quand il y avait du blues, quand il y avait des choses comme ça, ou du jazz de la Nouvelle-Orléans, il mettait toujours un peu la radio plus fort. Alors, ça a dû m'influencer énormément. Mais moi, le grand choc, ça a été un tout petit peu plus tard, quand j'ai eu 12, 13 ans, au tout début des années 60, pour ne rien vous cacher. Et donc, là, j'ai entendu Ray Charles, j'ai découvert les pionniers du rock. Elvis, bien sûr, Gene Vincent, Eddie Cochran, tous ces gens-là. Et je me suis aperçu qu'ils avaient puisé une grande partie de leur inspiration chez les bluesmen noirs américains. Et là, j'ai eu envie d'en savoir plus et de découvrir ce qui n'était pas évident à l'époque en Europe, puisque... Il y avait notre ami Memphis Slim, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était vraiment l'ambassadeur du blues. Il y avait vraiment très peu de bluesmen qui venaient jouer en France et en Europe. Il y avait Big Bill Bronzy aussi. Led Belly, m'a-t-on dit, a joué à Paris l'année de ma naissance. Mais là, je devais être quand même un peu trop jeune, mais j'ai dû recevoir les vibrations qui sont arrivées jusqu'à mon berceau. Enfin, ce qui fait que vraiment, je suis tombé dans la marmite à cette époque. Et c'est au lendemain d'un concert de Memphis Slim, dans ma province natale, en Normandie, que j'ai vraiment eu envie. Quand j'ai vu ce personnage qui faisait, je sais pas, 1m90 de haut, qui jouait son piano avec à la fois autant de joie de vivre et puis autant de sincérité et puis quelquefois même... Il y avait des moments poignants, quoi. Je veux dire, bon, il y avait tout ça à la fois. C'était le blues. Bon, ça, je crois que j'en ai fait un peu l'expérience depuis. C'est un reflet de la vie. Et j'ai eu envie de faire cette musique. Et c'est dans la semaine qui a suivi ce concert, je devais avoir 14 ans, que j'ai eu ma première guitare. Et puis depuis, ben, j'ai pas arrêté.
Le blues, c'est une joie de vivre aussi, parce qu'on a toujours tendance à considérer le blues comme étant représentatif des étapes tristes de la vie. En réalité, c'est pas vrai, il y a plein de choses dans le blues.
Bien sûr, ça je crois que c'est un espèce de faux... Ouais, d'idées reçues comme ça qu'on a eues en pensant que le blues était une musique très triste. C'est vrai que le blues part d'un sentiment vraiment triste. Ça part d'un mal de vivre. Bon, évidemment... Pourquoi ne pas parler même de ces esclaves aux États-Unis qui ont été à l'origine de cette musique? Et bien sûr, il y avait je crois qu'on ressent le blues quand on se sent rejeté, quand on est victime d'un manque de respect, de choses comme ça. Et j'entendais John Lee Hooker dire tout récemment que le blues, c'est les relations entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai aussi. Alors c'est pour ça qu'il y a des très grands moments, et puis quelquefois, il y a des moments plus difficiles. Et le blues exprime tout ça. Hein. Je crois que c'est notre Johnny qui avait chanté ça dans une chanson déjà.
Le blues, en fait, c'est aussi un excellent apprentissage, alors, de la vie.
Ah, je crois vraiment, je crois que ça peut... J'irais presque jusqu'à dire que c'est une thérapie. Je crois que c'est comme ça que ça a été pris, d'ailleurs, par les grands blues, les grands chanteurs et musiciens qui ont créé cette musique. C'était une façon de pouvoir supporter des conditions de vie quelquefois très difficiles. C'était donc cette musique qui en même temps vient du cœur, qui demande... Je crois qu'on peut pas... On ne peut pas mentir en faisant le blues, on est obligé de raconter vraiment la vérité, ça c'est, je crois que c'est quelque chose de plus qu'important.
C'est pour ça que c'est une musique qui est éternelle, qui échappe à tous les courants, à tous les créneaux de la mode.
Et oui, et pourtant, en ce moment, beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Mais c'est bien en ce moment, c'est la mode du blues. » Je dis « Non, 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 c'est une erreur, ça c'est pas la mode du blues. » C'est-à-dire que le blues, je crois depuis... Le mot blues a été utilisé pour désigner une musique, je crois, il y a 100 ans maintenant, pratiquement, que le blues, que ce mot est apparu pour désigner une forme de musique. Et depuis 100 ans, bah, c'est des vagues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le blues bénéficie d'un regain d'intérêt, où il est plus médiatisé qu'à d'autres, mais il est toujours présent. Je veux dire, les musiciens et les aficionados, les accros de blues sont toujours là, quoi. Alors, de temps en temps, il est un petit peu mis plus sous les projecteurs qu'à d'autres, mais c'est tout, c'est pas vraiment une mode.
Le blues, c'est un style musical, mais c'est aussi un certain nombre d'individus qui ont marqué le blues par leur style différent, des guitaristes, des chanteurs. Est-ce que vous avez étudié un petit peu tout ça? Est-ce que vous vous êtes forgé votre propre style à l'écoute de tous ces gens?
Oui, mais je crois que c'est une chose qui vient un peu naturellement. Je crois qu'il faut pas. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais me faire un style en écoutant Lynyrd Skynyrd, Johnny Hooker, B.B. King et je sais pas, et Robert Cray ou ah, il y en a un que j'ai vu tout récemment que j'adore, c'est Albert Collins aussi, par exemple. Et puis on pourra en citer des centaines et des centaines comme ça. Non, je crois que c'est justement c'est une musique qu'il faut. Alors, je vais employer un mot qui est peut-être pas très approprié, mais qu'il faut digérer. Hein, c'est-à-dire qu'il faut le. Et c'est une musique qu'on écoute d'abord. C'est quand des jeunes viennent me voir et me demandent comment faire pour jouer le blues, comment apprendre. Je crois que la première chose à faire, c'est d'en écouter. Et puis à partir de là, bah, je crois que si on a vraiment quelque chose à dire, si on a un tant soit peu de talent, le style se fait tout seul. C'est justement toutes ces influences qui sont comme dans un creuset, qui se mélangent et qui arrivent à ressortir. C'est pour ça que, d'ailleurs, beaucoup de musiciens de blues commencent vraiment à avoir une véritable carrière. Pas à 20 ans, hein. Ce serait plutôt autour de la quarantaine que les gens se révèlent. Et je crois que c'est plutôt bon signe, c'est un peu comme le bon vin, il faut que ça mûrisse, il faut que cette musique exprime une certaine maturité aussi.
À vous entendre et puis à découvrir aussi un certain nombre d'artistes blancs qui font du blues, j'ai l'impression maintenant que le blues est devenu une musique universelle. On avait tendance peut-être un temps à la cantonner dans un registre plutôt black. Et ça, pour moi, ce sont des barrières qui sont en train de tomber ou qui sont tombées.
Oh, je crois que ces barrières sont tombées depuis assez longtemps, dans la réalité. Maintenant, dans l'esprit des gens, c'était pas du tout, tout à fait pareil. C'est-à-dire que j'ai encore rencontré tout récemment des gens qui pensaient que si on n'était pas black et né dans le Mississippi, on pouvait pas jouer le blues. Je crois que c'est eux, c'est justement ces Noirs américains qui nous ont appris vraiment à le fait. Que le blues était une musique qui dépassait largement le ghetto, qui dépassait non seulement bien sûr une communauté sociale, mais en plus même un langage, puisque c'est pour moi quelqu'un que je considère encore comme un grand bluesman qui s'appelle Luther Allison, que j'ai l'occasion de côtoyer très souvent, on fait même des concerts ensemble, qui a été un des tout premiers à me dire, mais écoute Patrick, tu es en France, ou tout du moins dans des pays, tu chantes dans les pays francophones, il faut absolument que tu chantes en français, parce que si tu chantes en anglais, déjà, toi, tu veux pas vraiment bien maîtriser la langue, et en plus, ton public ne va pas comprendre la moitié de ce que tu dis. C'est complètement ridicule, le blues, c'est avant tout une musique de communication, et il faut absolument que tu chantes dans la langue du pays dans lequel tu te trouves. Et là, ça m'a fait vraiment un déclic, et j'ai commencé à faire du blues en français. J'avais déjà fait des expériences, mais disons que je l'ai fait d'une manière plus sentie, plus profonde, et maintenant que j'en ai fait l'expérience, je suis pas prêt d'abandonner.
Vous avez quand même été jusqu'à faire un duo avec Luther Allison, enfin un duo instrumental, mais dans le texte il y a des passages en français, des passages en anglais. C'est un petit clin d'œil, ça,
à Luther. Ah oui, c'est un morceau qui s'appelle Emily, que j'ai fait pour ma fille qui venait d'avoir 15 ans, et c'est pas vrai, c'était même pas un clin d'œil, en fait c'est le moment qui a voulu ça, c'est-à-dire qu'on était dans le studio. Et puis Luther était à côté de moi et je lui dis, est-ce que tu n'auras pas une idée, une musique pour faire un blues pour ma fille qui était là autour de nous en plus, qui était dans le coin. Et il a commencé à justement gratouiller sur sa guitare. Emily, Emily, me tiendras-tu compagnie? Et pour que Luther reste dans le coup, j'ai été obligé d'y traduire en anglais. Emily, Emily baby, will you keep me company? Et le clin d'œil, c'est quand je serai vieux, un peu barjot, comme un bluesman de Chicago. Et là, il s'est vraiment mis à se marrer et on a continué la chanson.
Il y a pas mal de bluesmen du reste qui habitent en France, comme Luther.
En ce moment, pas trop, mais c'est vrai que la France est un peu une terre d'accueil. Hein. C'est vrai que bon, il y a eu Memphis Slim, il y a eu Big Bill Bronzy, Big Bill Bronzy n'est pas resté. Memphis Slim a été celui qui est resté le plus longtemps, je crois. Ensuite, moi j'ai bien connu Sugar Blue aussi, qui était un plus jeune musicien de blues new-yorkais. J'ai discuté avec justement pas mal de Noirs américains qui, à l'époque, dans les années 40, bon, la ségrégation, dans les années 50, après la guerre, hein, juste après la guerre plutôt, la ségrégation dans le sud des États-Unis était encore assez féroce. Et ils appelaient donc cette ségrégation Jim Crow, Jim le corbeau. Et quand ils venaient en France, ils considéraient qu'ici c'était Crow Jim, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils étaient noirs, ils étaient américains, ils étaient musiciens et ils étaient respectés. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui leur a donné envie de venir. Et pour eux, je crois que la France, c'était un petit peu le pays de cocaïne, le pays où on était respecté. Je crois que c'est avant tout la chose qu'ils recherchaient. Un pays aussi où ils pouvaient s'exprimer, où ils avaient des occasions de faire des tournées, des choses comme ça. Quand on pense que Memphis Slim roulait en Rolls-Royce quelques années avant sa mort, c'est une image qui exprime bien ça. Oui, justement, j'étais parti pour voyager beaucoup, et en fait, j'ai voyagé un peu, mais c'était tellement riche et tellement, ça m'a apporté tellement de choses. Je suis allé à Memphis pour participer à un festival, le fameux Beale Street Blues Festival qui a lieu tous les ans sur les berges du Mississippi. C'est assez extraordinaire et grandiose comme décor. Et donc j'ai participé à ce festival, puis j'avais décidé d'aller faire un tour à la Nouvelle-Orléans, à Chicago. Et puis en fin de compte, il y avait tellement de choses et de gens fabuleux à rencontrer là-bas sur place que je suis resté pendant 3 semaines dans la région de Memphis. Et je suis retourné tout récemment, là au mois de mai dernier, et j'ai commencé à descendre le delta du Mississippi. Mais c'est pareil, on rencontre tellement de gens et puis de lieux aussi magiques comme j'étais visiter la cabane non pas est né Muddy Waters, mais où Muddy Waters a vécu depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 26 ou 27 ans. Il y a tellement de choses qui sont là, qui sont présentes. Alors, c'était plus fort que moi, j'ai sorti la guitare, j'ai joué là dans cet endroit. Et puis à ce moment-là, il y a deux ouvriers agricoles qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Well, what's that? Some white people playing the blues? » I say, « Yes, I'm French, man. » « And it's French, ok. » Et tout, ils ont sorti les bières et tout. On a commencé à discuter pendant 2 heures. Ce qui fait que, évidemment, quand on voyage dans ces conditions-là, on prend du temps, on ne va pas très très loin. Et je suis resté comme ça dans le delta du Mississippi encore une semaine. Alors la prochaine fois, j'essaierai de descendre, peut-être faire 30 km de plus.
Il y a un côté, c'est ce qui est assez génial du reste dans le blues, entre autres, et dans cette région-là. Il y a un côté un petit peu magique des choses. C'est pas une atmosphère un peu particulière. Est-ce qu'on la ressent réellement lorsqu'on est français, qu'on débarque là-bas, qu'on joue du blues?
Oui, moi je l'ai ressenti très très fort, mais je crois qu'il faut connaître un peu l'histoire de cette musique, l'histoire des gens qui l'ont créée. Ça permet évidemment de s'imprégner beaucoup plus de cette atmosphère. Pour quelqu'un qui n'est, quelqu'un peut aller là-bas dans le Mississippi par exemple et passer complètement à côté s'il n'est pas au courant. Maintenant, ils commencent à mettre des petits points de repère. Hein. Il y a un musée du blues qui est génial à Clarksdale, Mississippi, là où est né John Lee Hooker. Et il y a un musée vraiment qui est très bien fait, qui ne paye pas de mine. Hein. C'est ça qui est bien en plus. Ce n'est pas la frime du tout. C'est vraiment des objets qu'on ne s'attendrait vraiment pas à rencontrer là. C'est une bibliothèque municipale. Et puis en fait, dans un coin, je vois une planche de bois de 2 mètres de haut avec un clou à l'extrémité supérieure, un clou à l'extrémité inférieure, et puis un fil de fer qui est tendu entre ces deux clous. Et puis aucune légende ni rien. Alors j'étais voir le conservateur, entre guillemets, du musée, et je lui demande, mais ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? Elle me dit, ça, c'est une planche qui vient d'une cabane d'esclaves. Et donc les deux clous et ce fil de fer, eh bien en fait c'est sûrement un des tout premiers instruments de musique qui a été utilisé par ces gens. Ils glissaient un morceau de verre sur le fil de fer, et en fait c'était vraiment les tout débuts de la slide guitare, du bottleneck. Et il me dit, le pire c'est que c'était en fait la cabane qui servait de caisse de résonance. J'en ai déduit que ça devait pas être très facile de dormir quand il y en avait un qui jouait de cet instrument à l'extérieur. Enfin voilà, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui nous rappellent à se souvenir. Quand on a envie d'y aller, quoi. En fait, c'est vrai qu'il faut quand même aussi faire une démarche volontaire pour aller vers le blues.
En France aussi, il se passe pas mal de choses sur votre album. Du reste, il y a Bill Durham, il y a un certain nombre de bluesmen, un harmoniciste hyper talentueux. C'est-à-dire, ça signifie qu'il y a une espèce de famille aussi de bluesmen chez vous en France?
Ah oui, oui, oui. C'est bon, c'est pas une famille, c'est disons c'est des copains plutôt. Je crois qu'on est tous quand même. C'est ça qui est bien dans cette musique, c'est que elle est restée relativement simple, très proche des origines, des roots, et ce qui fait que on peut très facilement prendre une guitare et puis un harmonica ou une trompette ou une planche de bois de la maison et puis se mettre à faire de la musique ensemble et puis se retrouver et sans partir dans des délires trop free. et donc c'est pour ça qu'on se connaît bien tous, on se rencontre souvent, on se fait des petites soirées, des petites bouffes, des petits bœufs, des choses comme ça, c'est vraiment sympa, mais ça n'empêche que chacun a quand même sa vie aussi, chacun son style, chacun sa façon d'appréhender cette musique. Alors pour moi c'est des moments un peu privilégiés quand on se rencontre, parce que c'est pas si souvent. Il faut s'organiser pas mal, par exemple pour faire un duo comme j'ai fait avec Bill Durham, ou récemment on s'est retrouvé pour une émission de télé. Il y avait Paul Persson, il y avait Luther Allison, Pascal Michaelian qui est l'harmoniciste dont tu parlais j'imagine, et puis moi, on a fait pendant une heure, on a jamé comme ça sur un plateau de télé. J'attends de voir le résultat avec impatience.
Il y a aussi un artiste assez connu qui s'appelle Spencer Bowen qui était de passage. Comment ça s'est passé là ?
On vient de se quitter, on était encore ensemble hier. Je suis reparti d'ailleurs avec une guitare qu'il m'a vendue. Il a fait semblant de me l'offrir sur scène. C'était très bien, c'était assez drôle. Non mais c'est vrai, il me l'a presque offert parce qu'il me l'a vendu tellement peu cher, allez je peux le dire. Une des toutes premières guitares électriques des années 60 d'ailleurs, qui s'appelle Silvertone. C'est un drôle d'engin. Et il était pendant 15 jours au Méridien à Paris, sur la scène du Méridien. Et bon, Spencer a joué sur mon album, on se connaît maintenant. Ça commence à être une véritable amitié qui s'est nouée entre nous. C'est vraiment quelqu'un que je trouve extraordinaire parce qu'il a su dépasser le cadre rigide du blues, 12 mesures. Je crois que ça, c'est un petit peu une invention des producteurs de Chicago, en fait, qui, à l'époque, trouvaient que c'était plus facile de faire jouer le blues en 12 mesures. Comme ça, tout le monde apprenait le même morceau, puis ils étaient sûrs à peu près d'arriver à un résultat qui était audible. Alors que le blues, au départ, bon, il n'y a pas de structure fixe. On fait un petit peu ce qu'on a envie. Maintenant, le principal, c'est de le faire ensemble. C'est quand même plus agréable. Et pour tout ça, pour dire que Spencer Bowen est quelqu'un qui fait vraiment ce que j'appelle des chansons. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est-à-dire garder à la fois l'esprit du blues, garder l'esprit donc dans les textes, et musicalement évidemment rester, ne jamais essayer d'oublier la tradition, parce que sinon je crois vraiment on risque de tomber complètement à côté, mais en même temps faire toujours œuvre de création, quoi, essayer de toujours trouver des nouvelles formules, des nouveaux accords, des évidemment des nouveaux thèmes, ou tout du moins, même si on reprend des thèmes vieux comme le monde, et bien les faire à sa manière. Bon, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Spencer, qui est quelqu'un qui a mon âge, qui est né dans le Wyoming, qui vient de retourner dans Wyoming, m'a-t-il dit, c'est un retour aux sources lui aussi, après être passé par la Nouvelle-Orléans, par la Californie. Et là, pendant 15 jours à Paris, il avait spécialement demandé à ce qu'il y ait un ampli et un micro supplémentaire sur la scène du Méridien. Ce qui fait que depuis ces 15 jours, eh bien, tous les 2-3 jours, quand mon emploi du temps le permettait, on se retrouvait tous les soirs à faire le bœuf. Et c'était vraiment des moments de bonheur, hein, allez, je peux le dire.
C'est ça la musique, des moments de bonheur.
C'est fait pour ça.
On le disait tout à l'heure, des textes en français. Mm-hmm. Une certaine facilité d'écriture.
Oh non, non justement, non c'est pas toujours évident, des fois ça bouillonne trop, il y a plein de choses et il faut arriver à canaliser, il faut arriver à synthétiser un petit peu tout ce qu'on a envie de dire, et puis de le dire d'une manière qui semble, j'en reviens toujours à ces deux choses qui sont pas du tout antinomiques, enfin ni paradoxales, c'est-à-dire essayer d'être proche de la tradition, ne pas trahir nos aînés, les gens qui nous ont apporté cette culture, et puis en même temps trouver les mots qui soient à la fois celui de ce tous les jours, mais en même temps qu'ils soient mes mots et puis les mots des gens qui viennent écouter, donc qu'on ait un langage commun, quoi. Et c'est pas toujours facile parce que évidemment les publics sont souvent assez différents. C'est d'ailleurs un point je trouve important dans ce début des années 90, c'est que le public qui vient écouter le blues n'est plus le public traditionnel des gens qui avaient une trentaine d'années avant. Maintenant, je m'aperçois qu'il y a des jeunes qui ont 14 ans, qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, qui viennent écouter cette musique, qui en sont complètement dingues. Et puis, il y a aussi un retour des gens beaucoup plus âgés, qui ont des fois 60 ans ou 70 ans même, et qui ont connu le blues à travers Sidney Bechet, à travers la musique de l'après-guerre, à travers les grands orchestres de swing comme Benny Goodman et tout ça, et qui découvrent maintenant le blues plus original des grands personnages des années 30 comme Blind Lemon Jefferson, comme Robert Johnson et tout ça, et ils ne savaient même pas que ça existait, ces gens-là. Et puis ils découvrent ça, ils s'aperçoivent que c'est l'origine de la musique qui a bercé leur adolescence et tout ça. Alors c'est aussi un aspect, je crois, très, très important dans cette espèce de regain d'intérêt, de ce renouveau qu'il y a actuellement.
Lorsque vous êtes sur scène, vous racontez des choses ? Vous parlez un petit peu du blues, de l'histoire du blues, de ce que vous avez vécu ?
Oui, on m'a demandé de me taire d'ailleurs.
Chanter, mais ne parler pas.
Souvent, on m'a dit fais-nous un peu de musique de temps en temps. C'est vrai, mais ça vient aussi du fait que depuis 3 ans, je raconte l'histoire du blues aux écoliers, dans les lycées, les collèges, même les écoles primaires. J'ai fait une expo, disons que j'ai recueilli des documents que j'ai placés sur des panneaux d'exposition qui me permettent donc que je peux trimballer un peu partout, à droite et à gauche. Et donc, je me retrouve souvent devant un public de petits gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, et je leur raconte l'histoire du blues, avec des mots que j'essaye d'être les plus accessibles possible pour eux, en essayant que ça soit aussi attractif, parce que bien souvent, ils ont cette réaction assez répandue, « Oh, le blues, c'est vieux, c'est triste, monsieur, fais-nous du rap !» Bon, d'accord. Et en fin de compte, je leur dis, « Attendez, si vous écoutez un petit peu, laissez-moi 10 minutes, et ensuite, vous me direz ce que vous en pensez. » Et donc, je leur raconte un petit peu l'histoire du blues. Et puis, au bout de, un peu plus de 10 minutes, mais au bout d'une demi-heure, ils tapent dans les mains avec moi, ils chantent avec moi et tout. Et je m'aperçois qu'ils ont tous la frite, tous la banane. Donc, ça va. Le résultat est que le message passe, quoi.
Et que le blues est éternel. Il est peut-être finalement enraciné dans nos gènes.
Merci, merci. Tu as employé deux mots universels tout à l'heure. Éternel maintenant, c'est extraordinaire. C'est tout ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord.
On vous verra bientôt en Suisse.
Ah ben avec grand plaisir. Oui, oui, on est en train de tisser un réseau, non pas souterrain, mais un véritable réseau. Et j'espère beaucoup que dans quelques mois, on puisse vraiment faire quelques scènes dans votre magnifique pays.
Allez, allez, faut le dire. Je vais vous poser juste une toute dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Si j'avais la possibilité de réaliser 3 de vos vœux aujourd'hui, quels qu'ils soient, lesquels seraient-ils ?
Ah la vache, mais je suis en train de réaliser mes rêves là. Alors donc, ouais, s'il en reste encore, il en reste. Non, parce que c'est vrai, j'avais un de mes plus grands souhaits, c'était d'aller jouer dans le delta du Mississippi ou tout du moins à Memphis. Ça s'est fait. Maintenant, bon, je peux quand même demander une chose à ce sujet, c'est de pouvoir y retourner et de encore rencontrer plus de gens et encore de faire plus de musique là-bas et d'apprendre encore plus de choses. Ça, c'est sûr que c'est un de mes plus grands souhaits. À propos de rencontres, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de jouer avec Memphis Slim, de jouer avec Luther Allison très souvent. J'ai même eu l'énorme chance de faire le buff avec Freddie King un peu avant sa mort. Mais il y a quand même des gens que j'aimerais bien rencontrer avant qu'il soit trop tard. Bon, moi, je citerai Eric Clapton parce que c'est quand même, pour moi, celui qui a ouvert un petit peu la porte au blues blanc. Donc un peu international, il a été un de ceux, hein, parce que Johnny Winter, je l'ai rencontré, j'ai fait sa première partie pendant pas mal de jours, et je dois dire que ça a été aussi une rencontre extraordinaire. Alors c'est vrai que si un jour je pouvais rencontrer Clapton, ça serait génial. Il y a ça, et puis un troisième vœu, j'ai droit ? Ah, faut que je fasse attention, hein. j'ai pas droit à l'erreur. Ah bah oui, ce serait de vivre le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à faire du blues le plus longtemps possible.
Extra, merci beaucoup. Très bien.
Si j'ai un joker, ça serait de boire mon café avant qu'il soit froid.
Ah ouais, ça, je peux le faire.
Okay.